C'est quoi ce beau sourire-là?
Je sais pas, on a entendu un bruit d'orignal ou genre quelqu'un qui collait l'orignal juste avant d'entrer en onde, puis je me demandais si c'était notre prochain invité qui a fait ça pour nous faire rire ou...
Ouais.
Mais c'était bizarre.
Je sais pas, es-tu capable de coller l'orignal à ce gars-là? Salut ce gars-là, es-tu capable de coller l'orignal?
Je suis pourri là-dedans, pourri là-dedans.
C'est Kate qui est bonne?
On a une petite femelle, on a une petite femelle.
Ça, c'est une femelle, ça. Puis un mâle, c'est quoi la différence?
C'est vraiment plus guttural.
Oh, ouais, OK.
Il y a un influenceur dans le domaine qui a déjà eu une session, il y avait des lives régulièrement, qui s'appelle Johnny. Il y a d'ailleurs un marché, il est marchand, lui, dans le domaine de la chasse et de la pêche. Puis quand il donnait des conférences, il disait, pour comprendre qu'est-ce que le mâle et l'orignal femelle disent quand ils callent, c'est très simple. La femelle, elle dit non. Et le mâle, il dit pourquoi? Pourquoi? Johnny nous a enseigné à caler sur des stages pendant des années dans les shows en faisant ça. Johnny Lebel, et puis il le fait encore. C'est la meilleure approche que j'ai pu trouver parce que c'est niaiseux, mais en même temps, pour les gens qui sont peut-être plus néophytes au niveau des calls, de faire le... Puis là, c'est quand même une belle approche pour pratiquer les vocalises.
Vraiment. Puis il s'appelle Johnny, puis il vous apprend toutes ces affaires-là?
Oui, Johnny Lebel, c'est tout qu'un caller à l'orignal, honnêtement. Là, il a été ses stages souvent, il a fait des émissions souvent. Et en fait, je pense que c'est la chasse, ou dans le bois avec Johnny, si vous voulez le trouver sur les médias sociaux, là, un chic type.
Excuse-moi, sur son CV, il est écrit Johnny Lebel, caller d'orignal, puis dans le fond, lui, il paie sa maison de même.
Exact.
Non, ils ont un magasin de chasse et de pêche. Lui et Corinne Garriépi, sa conjointe, ont un magasin de chasse et de pêche dans le coin des Laurentides.
Bon, tu scrapes un peu la magie, mais ça reste qu'on comprend mieux, sauf que quel homme.
Sais-tu ce qu'a dit ma tante Solange de Johnny?
Qu'est-ce que c'est?
Elle dit Johnny, là, il dit que l'éducation, c'est aussi important que le cul et la boisson.
C'est bon.
Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse-Pêche. La semaine dernière, on se parlait, puis Elon Musk nous a fait la vie difficile parce qu'il y avait des nuages qui passaient, puis on n'était pas capable de se rejoindre avec le fameux satellite qui te permettait de nous jaser. On parlait du petit gibier. On est encore dans le temps de la chasse du petit gibier actuellement?
Absolument. Écoute, présentement, c'est petit gibier puis orignal. Fait, c'est déchirant un peu, mais si tu es sorti de ta chasse ou tu n'as pas encore fait ta chasse à l'orignal, tu devrais présentement être au petit gibier, qui est une des activités les plus tripantes. Honnêtement, demain matin, là, demande à Kate, là, elle est dans le restaurant. Elle est dans le restaurant, je suis dehors, je vous parle. Envoyez un texto et dis, on part à la chasse avec ton chum, tu t'en vas où? Elle va dire au petit gibier. C'est tellement une belle chasse, le petit gibier, qui est facile. On n'a pas à se casser la tête avec nos odeurs, la couleur de notre linge, la préparation, les urines, les ci, les ça. Tu marches dans le sentier avec ton arme cassée, déchargée, avec un ami, avec ton fils, avec ta blonde. Tu placotes, il n'y a pas de problème, puis tu récoltes une méchante bonne viande qui est la gélinotte ou encore le tétra, puis le lièvre d'Amérique, évidemment.
C'est vrai que j'étais dans une voiture avec Kate, puis pendant au moins une heure, elle a parlé de ça, mais avec un sourire, puis les yeux avec des étoiles, là, elle dit ça, si une personne veut faire une chasse une fois, c'est celle-là que je lui recommande. Elle était certaine de sa recommandation. Tu as un choix là, pour aller chasser, ça va être les petits gibiers.
C'est sûr que tu vas revenir avec une expérience positive, même si tu as un peu moins de récolte, tu vas avoir la récolte. Puis tu vas surtout avoir eu beaucoup de plaisir. C'est le principe. Là.
T'es-tu au McDo, toi, Martin, pendant que tu nous parles de chasser ta propre viande? Là, ou...
Hein?
T'es-tu au McDo pendant que tu nous parles de chasser ta propre viande? On entend ta porte toute, ta fenêtre descendre.
Non, c'est je sais pas pourquoi le char a comme détecté que j'étais là, puis il a comme tout allumé. Fait que je me suis réfugié dans l'auto pour avoir du son au moins pour pouvoir vous parler. Là, mais il voulait comme embarquer sur le main libre. J'ai dit non. Fait que j'ai fermé et j'ai ouvert la porte. C'est de ma faute.
Mais tu parlais de la gélinotte. Ça, je sais pas comment vous faites pour chasser ça. Honnêtement, je me promène dans le bois. Je suis pas capable de les voir d'avance. Puis quand ça décolle, j'ai tout le temps l'impression de faire une crise de cœur.
Ben, c'est relativement... Ah oui, ça part, puis quand ça tambourine, c'est assez... À un moment donné, on est à l'orignal, puis il y a un de mes chums qui me dit « Ah, il y a quelqu'un qui part un 4 roues, puis le 4 roues, il y a un problème de timing, de douf, 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 douf. » Je dis « Non, c'est des perdrix qui tambourinent. Ils font une parade, c'est les coqs perdrix qui tambourinent. Si tu veux les voir, généralement, il y a des moments quand même assez propices dans la journée. Surtout présentement, il fait plus froid un peu. Fait que la gélinotte, elle va avoir tendance à sortir dans les sentiers. Quand il y a un bain de soleil, elle sort dans les sentiers pour deux raisons. Elle s'en va se réchauffer, mais elle s'en va aussi se remplir le gésier de petits cailloux. Elle va carrément ingérer des petits cailloux qui sont nécessaires à ce que tout son bol stomacal fasse le tract intestinal au complet. Donc, pour digérer, elle en a besoin, elle va se remplir le gésier. Fait que je te dirais que les petits matins où est-ce que le soleil perce puis la nuit a été chaude, ils vont être dans le chemin. Ils vont littéralement être dans le chemin.
Tu vois, tu m'apprends ça. Je savais pas que ces oiseaux-là prenaient des cailloux pour justement faire le ménage intérieur. C'est fou, hein? Oui. Ça a pris le premier qui l'a fait et il a transmis ça aux autres.
Je pensais à la même affaire. Je dis, laquelle première jolie note qui a décidé au moment de manger du caillou?
Celle-là qui a mangé une huître, il pensait à quoi? OK. Sinon, y a-tu d'autres chasses intéressantes à faire ces temps-ci? Puis la pêche, comment ça se passe, là?
Bien là, la pêche, écoute, c'est sûr que Doré, Achigan, Brochet, c'est encore le temps, c'est encore des beaux temps de pêche. L'esturgeon, c'est vraiment la saison pour l'esturgeon. Si vous trouvez des fonds plats boueux, par exemple, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est le temps de vous essayer à l'esturgeon et c'est pas si compliqué que ça. Mais sinon, présentement, c'est la chasse à l'orignal. Définitivement, c'est la chasse à l'orignal. Il va y avoir une pause entre les deux. Après ça, ça va être le chevreuil. Évidemment, la perdrix, le petit gibier, on dure tout ce temps-là. Mais là, 100% des cœurs québécois de chasseurs sont à chasse à l'orignal présentement. Et la vie n'est pas facile parce que c'est excessivement chaud dans les dernières semaines. Ça s'en va en se rafraîchissant, là. Les orignaux vont sortir un petit peu plus, vont être plus collaboratifs. Mais présentement, avec les chaleurs qu'on a, ça modifie tellement le comportement de l'orignal. Les chasseurs ont tellement à s'accommoder de tout ça parce que les déplacements ne sont pas les mêmes. Les orignaux sont dans les coulées, sur le bord des rivières, sont sur le top des montagnes à essayer de se refroidir avec le vent parce qu'il fait trop chaud. Là, on rentre là, dans des semaines qui vont être un petit peu plus froides la nuit. Fait qu'on va avoir des belles plages de chasse le matin et le soir. Mais si on regarde ces réseaux sociaux, il y a quand même de très belles récoltes d'orignaux présentement. On est dans une année qui... Vas-y.
Est-ce que ça va changer à travers le temps? Parce que tu en parlais, on avait eu comme la chasse à l'orignal qui avait été un peu décalée. Est-ce qu'on est dans... sans dire les dernières années de la chasse à l'orignal, mais un changement de paradigme au niveau de la chasse?
Écoute, c'est très épineux comme sujet. Certains puristes vont te dire que définitivement, il faut continuer à avoir une présence sur le territoire, non seulement pour chasser, mais que la présence sur le territoire de chasseurs et de pourvoyeurs enraye une autre problématique qui s'appelle le braconnage. Si tu n'as pas de présence sur le territoire, il va y avoir de la récolte qui va se faire pareil, mais cette récolte-là, elle va être illégale. Au bout du compte, on veut avoir des gens qui sont présents sur le territoire, qui ont des yeux dans les forêts, qui rapportent le braconnage, mais qui rapportent aussi les problématiques. On a des problématiques de tiques sur les orignaux, on a des problématiques de vers des méninges, et ces choses-là, ce sont les villégiateurs, les chasseurs, les pêcheurs qui les rapportent en occupant le territoire. Ça empêche les autres activités sur ces territoires-là. À l'autre extrême, certaines personnes nous disent qu'avec l'état et le statut de l'orignal actuel dans certaines zones comme la 27, si on ne restreint pas la chasse et les activités de motoneige hors-piste et les activités des travailleurs forestiers, eh bien, dans 4-5 ans, on va parler de l'orignal comme on parle présentement du caribou.
Dans 4-5 ans? Mais là, c'est parce que si tu commences à restreindre comme ça, là, mettons des droits de motoneige ou des accès ou le nombre de personnes, ou ça va crier fort. Là. On est vraiment, comme tu dis, c'est épineux, on est dans un contexte que personne en parle. Là.
Bien, définitivement, puis c'est pour cette raison-là que tu soulignes que c'est excessivement important que notre bon ministère cesse de faire des gestions provinciales et commence à faire de la gestion sectorielle. C'est-à-dire, il faut comprendre un peu comment les plans de gestion fonctionnent. Le ministère et ses biologistes vont faire des inventaires aériens, généralement l'hiver, parce que c'est là le plus facile d'évaluer les pochettes hivernales, c'est-à-dire les regroupements d'orignaux, parce qu'ils ravagent à ce moment-là, et de faire un certain décompte de la présence d'orignaux sur le territoire et de tenter une approximation au niveau du ratio des sexes mâles-femelles. Et de là, ils vont déterminer si cette année est une année permissive. Permissive veut dire vaut mâles-femelles. non permissive, qui veut dire mâle seulement, et ultimement contrôler les quantités d'orignaux qui pourront être récoltés, mais le ministère le fait sur le plan provincial. Les chasseurs, au travers de Unis pour la faune, entre autres, et au travers de d'autres organisations, réclament une gestion plus sectorielle, parce que cette réalité-là, elle n'est pas la même dans le Bas-Saint-Laurent que dans la zone 27, ici dans Portneuf et Charlevoix, qu'elle peut l'être plus au sud du Québec. Elle est excessivement différente et elle demande à être adressée d'une façon différente. Alors, si demain matin, on arrive avec des solutions en termes de plan de gestion de chasse à l'orignal qui est sectorialisé, dans lequel on légitimise des décisions en expliquant la réalité de chacun des cheptels, ça va être accueilli par les chasseurs, excuse-moi, qui veulent d'abord et avant tout la pérennité du cheptel d'orignaux. Et c'est une des raisons pour laquelle ça peut paraître stupide quand on le dit comme ça, mais c'est une des raisons pour laquelle on chasse. La conservation passe par la chasse, par les moyens de contrôle, de la prédation, on veut avoir ça. Alors, tout ce qui est très épineux d'en dire on chasse plus pour protéger ou on modifie les habitudes des forestières puis des skidous, si on le passe par des plans de gestion comme ça, sectoriels, qui reflètent les réalités du cheptel qui est dans le secteur, ça va être beaucoup mieux accepté par tous les paliers d'activités commerciales, récréo-touristiques, chasse, etc. Et on pourrait avoir une espèce de soulèvement du milieu si on veut venir épauler les efforts de conservation.
Martin Bourget, il y a un auditeur la semaine dernière qui m'a posé comme question parce qu'il a su que tu amenais des groupes en Afrique pour faire de la chasse et des safaris. Et il se posait la question à savoir si toi et Kate, vous pourriez peut-être partir un groupe pour aller à la pêche au thon en Haute-Gaspésie. Est-ce que ça serait chose possible? Puis toi, tu l'as-tu déjà vécu, cette pêche-là? Puis ça doit être exceptionnel quand même, pêcher un thon de plus de 600 livres, là?
Je ne l'ai pas faite, puis je vais te dire, c'est quelque chose qui me chatouille en tabarouette parce qu'effectivement, c'est super trippant. Il faut savoir que ça se fait dans des conditions particulières. Tu ne peux pas, comme individu, partir et aller pêcher un gros thon comme ça. Tu dois y aller avec un commerçant, soit un restaurant ou un pêcheur qui a un permis de pêche pour un thon, un permis commercial. Et eux vont te vendre le forfait. Ils vont te permettre de manière sportive de récolter le thon pour eux autres. Mais le thon, c'est le commerçant qui va l'avoir au bout de la ligne. Mais définitivement, ça peut être pas mal trippant. Maintenant, des groupes, c'est compliqué de faire des groupes à la pêche au thon, puisque par année, il va y avoir 5-6 personnes qui sont chanceux, qui peuvent embarquer sur des bateaux de pêche commerciale et profiter du fait qu'un pêcheur commercial accepte de laisser un pêcheur qui pêche par loisir, sortir son thon de l'eau. C'est un petit peu moins facile. On pourrait y aller sur du multi-espèces si on fait de la pêche en haute mer, avec entre autres destinations haute mer qui sont situées dans le coin de Matane, qui ont 4 ou 5 bateaux, si je ne me trompe pas. Là, on pêche du touski, du bareiller, du maquereau, on peut pogner de la lotte, on peut pogner de la morue, on peut pogner de toutes sortes d'affaires. Ça pourrait être définitivement quelque chose qui est possible. On tente de faire des groupes pêche. On va au Costa Rica, justement, au mois de décembre pour aller tester des endroits pour vous ouvrir des groupes pêche là aussi, pour vous permettre d'aller dans le sud, pas juste pour de la chasse, mais pour de la pêche aussi.
Parce que le thon à 600 livres, ça doit être exceptionnel sortir ça de l'eau. C'est un mastodonte des mers. Là.
Ça te prend un moulinet, je peux pas croire. Ça te prend un genre de poulie, là. C'est trop lourd.
Ah, tu pensais y aller à bras, toi?
Mais non.
T'aurais été déçu.
Il y en a peut-être qui ne savent pas. Fait que là, je fais comme ça.
Ça
te prend une poulie, hein, Martin?
Oui, mais pour sortir ça de là, ça te prend une machine. Tu n'as pas le choix. Là.
Bon, oui. Pour le sortir, ça prend un treuil. Ça prend un treuil pour le sortir de là, mais le combat se passe entre un pêcheur, une énorme canne à pêche avec un énorme moulinet. Et oui, c'est à bras, puis même les plus en forme vont se relayer entre eux autres parce que c'est presque impossible de penser que de faire le combat au complet jusqu'au bateau. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Mais je vais te dire une affaire, c'est quelque chose. Hey, c'est très puissant. Puis dans l'eau, la masse n'est plus vraiment existante, mais les muscles sont quand même là. Fait que le potentiel en termes de puissance de ce poisson-là au bout de la ligne, là, c'est toute qu'une expérience, ça.
Puis pour sortir ça de l'eau, il l'endorme-tu? Il envoie-tu un choc électrique pour l'endormir, non?
Non, 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 non. Il accroche après une poulie, il sort de là, puis évidemment, ça se débat beaucoup, mais c'est ça. Peut-être qu'il y a des pêcheurs qui ont des techniques pour les calmer, et que je connais pas. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu sortir à la poulie. Ça s'en va sur le bec du bateau en arrière, le temps qu'il se calme un peu, puis après ça, ça va être pesé, ça va être découpé, ça va être servi dans les restaurants, dans le coin, le plus frais possible, le plus rapidement possible.
Parce qu'un thon de 600 livres, ça peut rapporter combien?
C'est des dizaines de milliers de dollars. des dizaines de milliers de dollars.
Parce que ça, après ça, ils le vendent, même si c'est un resto de la compétition, ils le vendent à certains. Il y en a eu un récemment, il y a eu un bon morceau de thon qui est arrivé.
La Gaspésienne.
Oui, ben pour vendre à tous et chacun, mais il y en a eu aussi à le restaurant de l'Assemblée nationale.
Ah oui, ils ont pêché un thon.
Oui, ben ils ont eu une partie, ils ont acheté une partie, ils l'ont tout arrangé, ils ont fait un menu complet avec ça. Stéphane Moda aussi a fait un souper orgie de thon du côté du Cirque de la Garnison. C'est comme la période en ce moment où les gens s'amusent avec la pièce, là.
Ah oui, des fois au clan, il y en a justement. Mais effectivement, le commerçant principal ne le prendra pas au complet parce qu'il n'y a pas un restaurant qui va passer un thon de 600 livres. Là, c'est impossible, à part de faire bien du canage. Mais non, puis on fait pas du canage avec ces thons-là. C'est des thons qui sont des grands thons comme ça. On veut vraiment les avoir en darne. On veut les avoir en... On veut avoir des... Comment est-ce qu'on appelle ça, dans tabarouette? Pas des gravlax, mais...
Tataki?
Sushi. Pas sushi, mais... voyons, tartare.
Tartare de thon. Ouais, c'est
on bon allait tout nommer, là.
Est-ce que la population de thon, on a en masse pour longtemps?
Le thon, oui. Le thon se porte quand même assez bien. C'est sûr qu'on a quand même une espèce envahissante dans le secteur qui attaque les stocks de morue. Quand il va tomber sur des petits thons, il va s'en nourrir aussi, puis ça crée un peu de problème. Moins dans le thon que la morue, puis c'est le phoque gris. Là. La chasse réouvre dans pas grand temps. Là. Le fameux phoque que Brigitte Bardot a protégé pendant tant d'années, eh bien, il est tellement rendu en surpopulation qu'il affecte carrément les quotas de pêche commerciale. Donc, les stocks de morue sont presque à sec. Il rentre un peu dans le thon aussi, il rentre dans d'autres espèces. Là. C'est un grand mangeur de poissons, puis il crée beaucoup de problèmes. Ça affecte la dynamique de l'écosystème directement quand tu as de la surpopulation dans une espèce comme ça.
Ouais, j'ai embarqué là-dedans aussi le blanchon là, qui était présenté, tout blanc avec ses beaux grands yeux et tout ça. Je comprenais Brigitte dans le thème.
Ah oui, mais moi aussi je la comprends, c'est super cute. En toutou, ce serait extraordinaire, mais en surpopulation comme ils sont là, c'est qu'à protéger une espèce, tu viens qu'à la mettre en danger parce qu'elle devient en surpopulation, puis tu as une incidence sur tout le reste de l'écosystème. Donc c'est très pernicieux comme acte, ce qui a été fait par Brigitte Bardot.
Toujours des pour et des contre, mais Yannick, je me demande, il protégeait qui, le Blanchon ou Brigitte, mais ça c'est pour une autre histoire.
J'ai une partie de la réponse, moi.
A toujours été belle femme, là, mais le Blanchon, ce qui était particulier, c'est qu'il était blanc, sur de la neige blanche, puis quand il chassait au pic, là, au crochet. Le résultat était peut-être visuellement pas super. Là.
C'est très visuel, effectivement. Mais tu sais, c'est un dossier, ça, hein, la protection des animaux sur le plan mondial qui est en train de virer de bord complètement. Au fur et à mesure qu'on avance, on a des grands activistes et des grandes organisations activistes qui sortent du chapeau tranquillement pas vite parce qu'ils se sont fait refuser, par exemple, un financement par une des grandes ligues comme Greenpeace ou quoi que ce soit. Puis là, whoop, ils commencent à mettre à jour comment ça fonctionne, l'espèce de supercherie qu'il y a dans la protection des animaux et la protection de l'environnement. Ou est-ce que il y a... Tu sais, c'est facile d'aller chercher de l'argent quand tu t'appelles Greenpeace puis aller chercher la sympathie des gens. Ça devient mercantile comme ça, pas de bon sens. On ramasse d'énormes montants d'argent. Évidemment, on fait des efforts de empêcher la chasse ou protéger certains animaux. Et on commence à comprendre à quel point c'est excessivement payant l'environnementalisme et l'animalisme. Quand on voit des grands environnementalistes comme Jim Barrington, je t'en avais parlé, Pascal.
Oui.
Jim, c'était l'ancien directeur d'une immense association britannique qui est la League Against Violent Sports. C'est un activiste fini envers la chasse. On ne devrait pas tirer un animal, on devrait ne manger que des choux de Bruxelles. Il est rendu pro-chasse aujourd'hui. Pro-chasse. Et tranquillement, pas vite, on en voit plusieurs comme ça déculottés, littéralement défroqués. Et pour deux raisons. Dans un premier temps, des gars comme Barrington, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, qui parlent avec le côté conservation et qui se rendent compte que les efforts de récolte animalière sont intimement liés avec la pérennité des espèces. Puis d'un autre côté, ils sont parfaitement conscients, parce qu'ils sont dans un conseil d'administration des grosses fédérations, qui a une supercherie incroyable dans la perception d'argent de la part de Greenpeace, la perception de l'argent de Greenpeace de la part des contribuables qui cotisent à la cause, mais que généralement, c'est dans un nuage qui est totalement éphémère et qui est très... C'est des gens qui sont très créatifs au niveau du financement, avec des causes qui sont... Pas à propos, on a parlé des éléphants dans les derniers temps. Les éléphants qu'on protège dans les zones où est-ce qu'on les protège, pour des chèques qui sont immensément grands, sont en train de défaire l'écosystème dans les endroits où est-ce qu'on les surprotège pour toutes les autres espèces. Et ça se passe aux quatre coins de la planète. Fait que là, des grands activistes comme Jim Barrington puis bien d'autres grosses têtes activistes comme ça sont en train de flipper de bord. Est-ce qu'on leur a refusé un chèque, puis ils sont fâchés, fait qu'ils mettent à jour qu'est-ce qui se passe? Mais c'est en train de sortir de partout, là. Présentement, il y a une hémorragie là-dedans, là. Et les gens qui sortent du milieu activiste mettent vraiment public la supercherie qui existe dans le financement au travers des couverts fiscaux que sont, parce qu'ils les identifient comme ça, les couverts fiscaux que sont les Greenpeace, World Wildlife Federation, et etc. Au niveau membre, la personne qui est membre a l'impression de faire une très bonne action. Mais au niveau des conseils d'administration, le créationnisme qui existe dans des problématiques qui ne sont pas des problématiques réellement, pour être capable de liquider ces argents-là, c'est énorme. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre de l'avant, de dire peut-être que ce qui est en train de scraper la face de la Terre, c'est peut-être pas ce contre quoi on se bat, c'est-à-dire la chasse, la récolte, etc. Au contraire, c'est l'avidité de ces hommes-là à faire des revenus monumentaux au travers de couverts fiscaux qui sont cachés derrière des causes environnementalistes qui n'existent pas pantoute.
Martin, tu es un grand théoricien. J'ai des questions pour toi. J'aimerais que tu répondes en 30 secondes. Pascal nous a avoué qu'à chaque fois qu'il y a un dindon sauvage ou une dinde dans son entourage, elle est la principale victime de ces dindons de l'enfer. Pourquoi?
Parce qu'elle se met en position de victime.
Mais là, je ne suis pas en position fœtus à terre en disant « attaque-moi ».
Non. J'exagère un peu. Un dindon, c'est un animal qui est grégaire, qui vient en gang généralement. Il va avoir ses points de fuite qu'il connaît, puis il va avoir sa gang pour se conforter. Quand il voit quelque chose d'autre qui est vivant, proche de lui, il va faire comme un chihuahua, il va donner tout ce qu'il a pour sortir de l'impasse dans laquelle il est.
Mais il est agressif maintenant, pour vrai, Martin, là, c'est pas... Si chihuahua, tu peux botter un petit peu, si jamais... Là, je dis pas de botter chihuahua, mais s'il vous attaque, vous pouvez le tasser, je pense.
Tu l'as dit.
Mais la dinde, rien à faire, là.
Ouais, mais t'es en position de légitime défense ou pas?
Mais c'est parce que je vais avoir plus mal de me faire mal, encore plus si j'y touche.
Ouais. C'est que le dindon détecte chez toi une certaine faiblesse à son égard, puis il en profite. Il veut t'attaquer.
Ça, les humains font ça.
Avec ce qui allait sortir. Écoute, pour une raison ou une autre, moi aussi, je suis comme ça. Quand je rentre à un endroit où est-ce qu'il y a un chien dominant, c'est moi qui affronte. Quand je rentre à un endroit où est-ce qu'il y a un animal comme une mère bernache ou une mère oie, c'est moi qui affronte. Tout le temps. Puis pourquoi j'en ai aucune espèce d'idée? La chose que je sais, c'est que j'ai le plus grand respect envers l'espèce animalière, mais la légitime défense, ça existe toujours. Puis un dindon, c'est un des plus hypocrites au niveau de l'attaque. S'il t'attaque et tu te tasses avec ton pied, de légèrement à lourdement, il ne reviendra pas.
Martin, sais-tu c'est quoi mon truc quand je vais dans le bois puis je crains des attaques d'ours?
Vas-y.
J'amène toujours quelqu'un qui court moins vite que moi.
Tu sais qu'on retrouve des clochettes dans la merde douce, hein, d'ours. Ouais, c'est comme ça qu'on fait pour des petits grelots que le monde, les randonneurs se mettent après eux autres faire du bruit. Là. On retrouve ça, c'est le même qu'on identifie la merde d'ours.
Salut Martin.
Et salut Gary.
Hey, mon ami, on te trouve comment sur les internets, là?
Ce soir en live, partout sur les réseaux sociaux à partir de ma page et sur acpnation.com. C'est votre point de contact. C'est long. L'émission recommence ce soir, by the way, à 21h sur les ondes de Télémag, sur Facebook, sur YouTube. C'est la grande première de la saison. Ce soir, ne manquez pas ça. Toute nouvelle animation d'ouverture avec une collaboration qui va vous jeter à terre.
Dis salut à Kate pour moi, Martin.
Et je vais faire ça. Je retourne en dedans avec elle.
Salut. Ah, chanceux. Salut!
Salut, Martin. Hey,
mon chum Martin Bourget, à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine. Un expert chasse-pêche.
Toi, tu serais capable de, mettons, fesser une dinde si elle t'attaque? T'aurais pas plus peur?
Non. C'est pas le genre de chose qui me fait peur.
Toi, tu courrais pas, tu la confronterais.
Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il m'arrive jamais rien avec ces bêtes-là. Là.
C'est plus ça la différence.
Tu sais,
on fait ça la même chose avec les humains. Avec...
J'ai un de mes chums qui a un chien très particulier. Il m'écoute présentement, probablement, dans son garage. Là. Mais il a un chien très particulier. Puis j'ai assez vite compris que quand il y a des animaux qui peuvent t'attaquer, de les fixer dans les yeux ou de les regarder, si tu leur portes attention, ils détestent ça pour mourir. Fait que t'as juste à faire comme s'ils n'existaient pas, tout simplement. Puis ils se comprennent, ils te voient juste pas comme étant un ennemi juré numéro un. Là. Fait que c'est probablement ça. Tu fixes la dinde
d'un yeux. Mais non, je la fixe pas.
Tu fixes la dinde d'un yeux, puis elle veut juste te faire du mal.
Fait que quand tu fixes quelqu'un dans les yeux, la personne va juste te faire du mal.
Quand moi, je l'ai fait, sauvez-vous. 13:45, on vient. Boulevard 102.1. Marceau le midi.